Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, entre les poteaux,
Christophe Cessieux.
Salut à tous. Faut-il parler de miracle ou d'une victoire construite au mérite? Les avis divergent après le difficile succès du 15 de France samedi après-midi à Murrayfield face à l'Écosse. Des Bleus passés tout près d'une nouvelle défaite, mais qui ont su renverser la vapeur après avoir été menés tout au long de la partie et en produisant un jeu très pauvre. Pourtant, le sélectionneur, lui, a adoré, parlant même de contenu parfait. Alors, se voile-t-il la face ou se fout-il de notre gueule? On en débattra dans quelques instants. Un succès que les Bleus auraient pu voir s'échapper si l'arbitre avait accordé à la dernière minute un essai qui semblait valable aux Écossais. Cette fois-ci, l'arbitrage a tourné en notre faveur et pourtant les Écossais se sont montrés exemplaires en refusant d'incriminer l'arbitre. Voilà une bonne leçon à retenir. Et maintenant, on fait quoi avec cette victoire? Peut-on construire là-dessus et repartir sur un nouveau cycle ou faut-il vraiment s'inquiéter pour la suite? Là aussi, on tentera de répondre à cette question. En attendant, les Bleus sont en vacances cette semaine et se retrouveront en début de semaine prochaine pour préparer le prochain match face à l'Italie. Faut-il apporter du sang neuf ou faire confiance au vainqueur d'Édimbourg? Là aussi, la question sera posée aux poteaux. J'en attends des réponses claires, nettes et détaillées, s'il vous plaît. Les poteaux du jour, les voici, les voilà. Il nous revient d'une tournée triomphale en Écosse, reconnue dans tous les pubs et salles de concert d'Édimbourg.
N'importe quoi.
Denis Charvet est avec nous. Il a enlevé son kilt, mais il a ramené quelques bouteilles de whisky. Comment ça va?
Non, j'ai pas vu de whisky.
Il a
quelques
mousses.
Je suis allé voir mon ami Dimeco qui donnait un concert.
Alors, c'était comment?
Qui était magnifique. Ouais. Christophe, comme il se levait tôt le matin, il était très vieux, il a pas voulu m'accompagner. Mais en tout cas, je me suis régalé.
6h15 du matin, c'est pas un horaire pour moi.
Non, c'était sympa. Voilà, non, pas fatigué. Et puis avec un peu de recul sur le match et un avis plus retenu.
Ah, mais j'imagine, parce que de toute façon, tu retournes souvent ta veste.
Non,
donc, je n'en attendais pas moins de toi. Elle aussi était de la partie. Winnie Claré a adoré le haggis.
Absolument, salut. J'ai eu un peu de mal à digérer, mais bon, allez.
Et puis lui, il a préféré regarder le match depuis son salon et décortiquer tout ça. Il va nous livrer le fruit de ses analyses poussées. Julien Landry est dans les poteaux. Salut Julien.
Salut Christophe. J'ai vu deux fois le match et je suis, contrairement à Denis, je suis encore plus effrayé après la deuxième vision qu'après la première.
Mais bon.
Mais c'est bien, on va
débattre. En fait, j'en ai marre de taper sur Fabien, donc je prends un peu de recul. Voilà. Bon. Je suis pas envie qu'il me rappelle le lendemain matin à 9h30.
Alors que nous, il va pas nous rappeler, on peut balancer tout.
On est tranquille.
Non, mais en plus, j'ai des arguments à vous mettre en avant. Vous
verrez. Eh bien, nous allons écouter tes arguments avec beaucoup d'intérêt. C'était donc samedi après-midi. Murrayfield avait revêtu ses habits de gala, ses cornemuses et autres kilts pour accueillir l'équipe de France, espérant bien quand même la battre. Et ça n'est pas passé bien loin.
3, 2, 1. Montrez-nous à notre visage, messieurs. C'est parti. Le coup d'envoi donné par Finn Russell assez haut dans les 22 mètres français. La réception. Attention pour Patterson. Patterson qui rentre intérieur, qui remise. Ça peut être le premier à essayer. S'il a le ballon, est-ce que ça fait essai ou pas?
Quel timing, Wilfried, c'est extraordinaire.
Et là, la première flèche plantée par les Écossais. 9e minute de jeu. Tendon au bail, l'extérieur. Ça va être
essai,
ça fait
bon.
Est-ce que ça va être essai, Lefico qui va les plonger? L'essai signé Gaël Ficou, peut-être celui de la révolte à la 31e minute. Yelberet, le coup fait pas au-dessus. Attention à la vitesse.
Oh non, il va.
Total.
Incroyable, l'essai de Biel Biarré.
Wow. Attention, le Garek, il a été plaqué par Finn Russell, qui pense au plus. Il s'est jeté dessus, Finn Russell. Le ballon est pour les Écossais. La défense est bien montée, mais il est passé.
Incroyable.
Attention, il est tout seul. Il a fait un avant. Il s'est arrêté à 7 mètres de la ligne. C'est Kyle Rowe. Il est dans la butte. Attention, quelques centimètres encore. Est-ce qu'ils vont sortir le ballon? C'est fou cette fin de match avec 3 avant Écossais.
Ils sont.
Est-ce qu'il a essai ou pas?
Voilà, arbitrage vidéo demandé par Monsieur Berry. Alors, essai ou pas essai, Monsieur Berry? J'ai l'impression qu'il dit qu'il va pas y avoir essai.
Non,
il n'y est pas. Il n'y est pas. Les Écossais qui enragent. La confirmation, il n'y a pas d'essai. Vous entendez les sifflets, la bronca de Murrayfield qui ne comprend pas la décision d'arbitre et les Français qui se jettent dans les bras les uns des autres. Incroyable suspense, incroyable final, la France qui s'impose. C'est un véritable hold-up ici.
1-16, miracle à la française. Mais que ce fut dur, que ce fut dur. Incroyable, jusqu'à la dernière action où tout un stade pensait qu'il y avait essai et c'est refusé à l'Écosse. Et victoire de la France dans cette deuxième journée du tournoi.
Voilà, victoire 20-16 alors que les Bleus ont été menés, vous l'avez entendu, durant 77 minutes au coup de sifflet final. On évoquait un miracle et même un hold-up avec le recul. Denis, donc tu le disais tout à l'heure, tu es moins sur cette ligne-là. Finalement, tu trouves la victoire méritée, la victoire
Non, la méritée, non. Après, hold-up, oui, c'est un peu un hold-up. Mais bon, quand tu gagnes, il n'y a pas d'hold-up. La preuve, c'est que je pense que l'essai ne pouvait pas être accordé dans l'état. Parce que je vous expliquais une chose, c'est que c'est Vincent Clerc qui m'en a parlé hier matin au petit déjeuner. Il dit en fait l'arbitre ne demande pas s'il y a essai ou pas.
Mais c'est donc, bien le problème, Denis. S'il pose une autre question, l'essai il a accordé et on a perdu le match.
Mais Julien, il a le droit de poser une autre question, c'est ça
Mais ce que je veux te dire, c'est ce qui est incroyable, c'est que s'il dit la décision terrain, il n'y a pas essai. S'il dit j'ai pas d'image pour rien dire et il demande à la vidéo, l'essai est accordé.
Oui, mais il demande après, est-ce qu'il y a une image qui montre que le ballon a été aplati? C'est ce qu'il dit, demande.
Oui, mais si Denis, regarde, par exemple, si lui il estime qu'il y a essai sur en direct, qui demande décision terrain, essai, est-ce que vous êtes capable de montrer une image sur laquelle il n'y a pas l'essai? Eh ben on lui montre les mêmes images pareil, et il accorde l'essai.
Tout dépend de la
Denis,
question posée.
Trois questions que l'arbitre peut poser, il y en a deux sur laquelle la France perd. Mais notre chance sur ce match-là, c'est qu'il pose la question qui permet à la France de gagner.
C'est ce qu'a dit. Parce que sa première décision est cette décision terrain et de penser qu'il n'y a pas essai.
Exactement. Et si sa décision terrain c'est essai, eh ben l'équipe de France a perdu le match et on fait un tout autre discours aujourd'hui.
Ce qui est pire, c'est que je crois que celui qui est dans le bunker, enfin celui qui est dans le quart, a dit qu'il y avait essai dans un premier temps, mais c'est Greg Thompson qui le déclare.
Mais oui, bien sûr. Donc, et après, il rechange sur la dernière vision.
Bon, après, c'est vrai que notre débat ne serait pas le même si, imaginons que l'Écosse avait gagné, ça aurait été une catastrophe. Je pense que
Galtier... Alors là, je crois que le Moscato Show ce lundi fait un débat. Ouais. Est-ce une victoire inquiétante? Est-ce qu'on aurait pu dire que c'était une défaite encourageante si on avait perdu de 3 points? Même pas. Ça aurait été encourageant.
Ça aurait été une défaite très inquiétante.
C'est une victoire inquiétante.
Aujourd'hui, c'est pas une défaite inquiétante. Ça aurait pas été une défaite inquiétante. Là, aujourd'hui, c'est une victoire qui est un peu inquiétante. Mais moi, j'ai envie de relever. Alors, il y a deux choses que j'ai envie de reprendre. C'est l'image des joueurs qui se congratulent à la fin. Ça veut dire que c'est proportionnel à la peur qu'ils ont eue et à la peur qu'ils ont, l'angoisse qu'ils ont vécue sur le terrain. Ça montre quand même une certaine solidarité, une certaine résilience. Et ils sont allés au bout du bout pour. Et finalement, ils n'ont pas renoncé, puisque c'était ces deux Bielbiari, il fallait le chercher. Donc, je suis un peu satisfait par rapport à ça. Après, évidemment, on va revenir en détail avec Julien et Winnie sur tout ce qui n'a pas marché. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Moi, j'ai envie de parler que de l'état d'esprit. Voilà. L'état d'esprit. Et je pense que Fabien Galtier, dans cet état d'esprit-là, il est pour quelque chose. Il est pour beaucoup dans la semaine où il a pas lâché ses joueurs, il était avec ses joueurs. Ses joueurs l'ont évoqué à travers les interviews. Donc je préfère garder ça et je me dis quelque part, il a presque sauvé pas sa tête, mais sauvé le match.
Denis, je me souviens ce que tu disais après le quart de finale contre l'Afrique du Sud. On joue 10 fois ce match, on le gagne 9 fois l'équipe de France.
On joue
10 fois ce match-là, les Écossais ils le gagnent 9 fois.
Oui, mais il faut savoir tuer les matchs.
Donc c'est un miracle, c'est un hold-up, c'est tous les mots que tu veux.
Alors je suis pas d'accord avec toi. L'Afrique du Sud, c'est pas un miracle de perdre contre l'Afrique du Sud qui nous concasse à 20 minutes de la fin.
Oui.
C'est pas la même.
Oui, mais t'as les situations, il peut y avoir 14-0 après un quart d'heure. Si être c'est bête, il n'y a pas en avant, le match il est plié.
Il serait peut-être revenu, on n'en sait rien, tu sais pas ça. L'Afrique du Sud, c'est un autre niveau. Hier, effectivement, c'est pas du tout la même configuration. Tu rejoues 9 fois ce match, 10 fois ce match, 9 fois ils vont le gagner, les Écossais.
Ça,
c'est certain. C'est sûr que si on parle de mérite, les Écossais méritaient au moins tout en tant que les Bleus de le gagner, ce match. En revanche, et tu fais bien de le souligner, je pense qu'il y a un truc qui compte, c'est quand même l'état d'esprit des Bleus. Parce qu'en fait, quand face à un scénario comme celui-là, on aurait pu sombrer.
J'ai préféré l'état d'esprit des Écossais. Hein,
ouais, mais c'est pas le même.
Mais en fait, quand t'es capable, dans des moments aussi clés que par exemple juste avant la mi-temps, quand quand Vinatonio se prend un jaune, qu'on a une mêlée juste en face de notre ligne d'embuste, on est à quelques centimètres, les Écossais ils peuvent tout à fait aller faire le break à ce moment-là, et là on aurait pris un sacré coup de bambou sur la tête. Mais on va gagner cette mêlée, on va récupérer une pénalité juste avant le buzzer. C'est pareil quand à la 50e Greg Aldrit sort sur blessure sur Sivière, qui fait la grimace, que tout le monde a peur pour le capitaine tricolore, mais que les Bleus se resserrent à ce moment-là. Et en fait, c'est des moments clés du match où mentalement ils ont su rester et garder juste peut-être pas le dessus, mais juste ce qu'il faut pour rester dans le match.
Ils ont réussi à s'accrocher.
Ça, c'est un mental qu'ils ont construit depuis 4 ans.
Ça, c'est sûr. Le mental.
Et
si les Écossais, si Finn Russell décide de prendre les points, au pied avec les Écossais en fin de période, ils nous mettent la tête sous l'eau. Non, mais je suis d'accord, Denis. Non, mais il y a aussi les scénarios de match qui fait que les Français ont aussi resté dans la partie. Les Écossais nous ont laissé dans la partie dans ce match-là. N'oublions pas.
Très bien. Alors, on va évidemment peser le pour et le contre, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Vous allez voir, en tous les cas, qu'en termes de jeu, on a sans doute assisté à l'un des matchs les plus pauvres de l'équipe de France, de l'ère Galtier. Et pourtant, écoutez le sélectionneur, écoutez en conférence de presse ce que nous disait Fabien. Donc, c'était une demi-heure après la fin du match. Il est arrivé sourire en conférence de presse et a sorti ça devant des journalistes interloqués.
Honnêtement, le contenu, quand vous gagnez en Écosse avec 4 points d'écart, pour moi ça me va. Vu le niveau de l'équipe écossaise en ce moment, vu le contexte dans lequel on est, je vais pas m'apesantir et être redondant, je trouve que c'est parfait. Le contenu est parfait. Depuis 4 ans, je vous dis, on n'est pas là pour faire des démonstrations. On est là pour représenter et pour gagner les matchs.
Le contenu est parfait, on n'est pas là pour faire des démonstrations, on est là pour gagner les matchs. Alors évidemment qu'il est là pour gagner les matchs, mais enfin, le contenu est parfait. Il regarde dans les yeux et il a l'air sérieux. Et on a dit, mais tu te fous de notre gueule.
Non, c'est sa méthode Coué qui marche à merveille.
Mais
tu penses que Fabien...
Mis 30 points il y a 2 ans, Denis, en Écosse, avec 5 essais marqués. Tu peux pas comparer les deux performances.
Vous pensez sérieusement que Fabien Galtier... on a été nul, vous plaisantez ou quoi?
Mais bien sûr qu'il le sait.
Oui, mais il joue avec vous, il joue avec les journalistes.
Il le joue avec nous, mais c'est pas qu'il joue avec nous. Parce qu'il sait très bien que nous aussi, on sait qu'il est pas parfait le match. Loin de là.
Mais il a pas envie de vous répondre, il vous répond à côté.
Il a envie de nous emmerder. Voilà.
C'est ce que je te dis. Voilà.
C'est une manière de contrôler le discours et donc de contrôler quelque part la manière dont tout son groupe appréhende et envisage le niveau de jeu actuel. C'est-à-dire que si tu gardes un discours lisse, si tu gardes un certain discours hermétique à tout ce qui peut se passer autour de l'équipe de France, eh ben tu t'assures quelque part que on noie un peu le poisson. Donc quand ça va pas bien, on évite de parler de certaines choses. Ça marche tant que t'as 80% de victoire. Ça va finir par se craqueler parce qu'un groupe c'est large, qu'il y a forcément des frustrations, qu'il y a forcément des interrogations, et qu'investir ne peut pas accepter d'adopter le même discours sans cesse lisse et de toujours éviter les questions qui fâchent quand ça commence à plus marcher.
Vous n'avez pas l'impression quand même que ce petit discours, Julien...
Non, c'est le Galtier de fin d'aventure à Montpellier, c'est le Galtier fin d'aventure à Toulon, qui a perdu une partie de son vestiaire. Alors, je ne sais pas s'il a perdu son vestiaire en équipe de France, mais en tout cas...
C'est
ce que je précise, je ne dis pas qu'il a perdu le vestiaire de l'équipe de France, mais moi, pour connaître Fabien très bien, c'est le Fabien Galtier que j'ai connu en fin d'époque à Montpellier, où il avait perdu son vestiaire et que tout était beau, qu'il voyait toujours du positif, qu'il voulait toujours tirer le positif, ne plus tirer sur les joueurs, parce que je pense qu'il aura suffisamment tiré dessus et qu'il a compris que la corde elle était en train peut-être de craquer, et que là c'est un Fabien Galtier qui bascule du mauvais côté.
C'est un petit jeu trop dangereux, parce que en discutant avec des supporters après le match, des supporters qui sont tous derrière cette équipe de France, qui ont été emballés par l'équipe de France qui a fait le grand chelem, qui était emballé, qui était derrière les Bleus lors de la Coupe du Monde, là quand ils entendent le discours de Galtier aujourd'hui, ils se demandent si le sélectionneur ne se fout pas aussi de leur gueule.
Alors moi je voudrais répondre, ce sont unanimes, c'est-à-dire que plus personne ne comprend le message, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un supporter qui comprend le message. Ils ne sont pas contre Fabien Galtier, ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas une communication plus ouverte, plus lisse,
plus
franche, c'est tout. Donc, mais là où je te rejoins, Julien, c'est que en fait, je pense que la semaine qui vient de passer avec les joueurs, où il a essayé de parler à tout le monde, il les a pas lâchés pendant une semaine, c'est aussi peut-être qu'il sait peut-être en danger par rapport à ses joueurs, si tu veux. Donc, il est assez malin pour reprendre un peu le pouvoir.
Mentir, se raconter des histoires, vous trouvez que c'est la meilleure des solutions?
En tout cas, c'est sûr que c'est pas respectueux
qui peut dire non, mais écoutez les gars, seule la victoire est belge, on est entièrement d'accord avec vous, on n'a pas réussi un match parfait, mais on s'est
imposé.
Mais je veux dire, surtout qu'il y en a qui tenir, sont capables d'investir.
Ça va choquer personne.
Le vice-capitaine Charles Olivon.
Se raconter des
le vice-capitaine Charles Olivon nous a dit exactement ça. C'est-à-dire oui.
On l'écoutera tout à l'heure.
Oui, et c'est donc on en est capable aujourd'hui d'avoir un regard lucide sur la situation des Bleus. Fabien Galthié, ça touche presque à de l'irrespect. Mais pas tant vis-à-vis de nous, journalistes, parce que nous, à la limite, on est là pour ça, on tend le micro. Mais par rapport aux supporters, parce que derrière les journalistes, c'est le grand public à qui tu t'adresses. C'est pas les partenaires privés des uns des autres. Non, là, c'est le grand public. Quand tu vois un match pendant 80 minutes et que derrière, t'entends le sélectionneur des Bleus te dire que le contenu était parfait, ça touche à l'irrespect. C'est nous prendre tous. On n'a pas la technique qu'il a, on n'a pas la vision du jeu qu'il a, évidemment que non. C'est bien pour ça qu'il est à la tête des Bleus. En revanche, nous dire que le contenu est parfait, quand tu vois la touche, on en parlera, quand tu vois les réceptions de certains
sa méthode,
sous les ballons.
On le connaît tellement maintenant.
C'est absurde, ça touche à l'absurde.
Mais Julien le connaît encore mieux que nous.
En 2022, 26 février 2022, l'équipe de France va gagner à Murrayfield 36-17 en passant 6 essais aux Écossais. Et alors que Fabien Galthié dise que le contenu de dimanche, il est parfait,
Il dit que c'est très dur de gagner en Écosse.
Il y a deux ans, en mettant six essais, Denis.
On a passé six essais il y a deux ans.
Encore une fois, il est omnubilé par les audiences, il est omnubilé par... il est dans une phase aujourd'hui où, ou alors il est traumatisé de cette coupe du monde, mais je pense pas. Je crois qu'il faut qu'il sorte de ce rôle-là, qui, à mon avis, le dépasse un peu aujourd'hui.
Tiens, un nouvel extrait de la conférence de presse de samedi après match. Un journaliste écossais, je crois, Winnie, lui pose une question sur la dernière action.
Mais même pas à lui, d'abord à Grégory Aldrit, c'est-à-dire qu'il s'adresse
comment vous avez vécu les dernières secondes, ce renversement, l'hésitation, l'arbitre qui finalement n'accorde pas l'essai à l'Écosse. Écoutez ce qu'a sorti Fabien Galthié.
It's very good for the suspense and for audience. It's a fantastic idea to check video during 4 minutes. The audience is at the maximum at the level. And advertising and the show is up. At the end, I'm happy.
Voilà. C'est lunaire.
Pas besoin de traduction.
À ce moment-là, on est tous bouche bée derrière.
Alors, on sait pas s'il se fout de la gueule de l'anglais.
Une nuance, c'est quand il dit qu'il trouve ça fantastique que l'arbitre prenne 4 minutes pour visionner la vidéo. Là, on sent que c'est de l'ironie, comme s'il regrettait effectivement que ça ait duré si longtemps.
Non, je pense pas.
Autant pour les Écossais que pour les Français. Non, mais parce que sinon, franchement, c'est presque un doigt d'honneur que tu fais aux Écossais qui sont face à toi et qui te posent des questions. Parce que tout le monde se sent volé à Murrayfield, du côté dans les rangs écossais. Et la seule réponse, d'ailleurs, à une question qu'on ne te pose même pas à toi, c'est d'être avec un large sourire, de faire marrer ton capitaine à côté de toi et de dire texto à un Écossais super le suspense. Pour l'ambiance, c'est génial. Le show, il
Julien
est.
Julien le connaît bien. Fabien, il a l'art de rebondir et de rebondir dans le sens qu'il veut.
Bah, c'est pas respecté.
Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il
va rebond, hein. Il y a eu des mauvais rebonds.
Mais c'est ce que je dis. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va lasser son auditoire. L'auditoire, c'est pas nous, c'est pas les journalistes, les consultants.
Encore une fois, ouais,
c'est le public. Et que je, à un moment donné, il faut qu'il fasse attention à son discours. Je sais pas, moi, je lui dis, sois simple, Fabien. Essaye de redevenir cet enfant de la balle que tu es, là. Tu es dans un rôle qui nous emmerde, quoi. C'est tout. Enfin, excuse-moi, mais.
Mais je pense que tout le monde le partage. Quand tu vois un petit peu les commentaires après match, quand petit à petit, voilà, on a diffusé les réactions de Fabien Galthié, je pense que tout le monde était atterré. Et là, c'est partagé par tous. Hein. C'est plus un débat. C'est juste, on est tous quoi.
Et en même temps, ils s'en foutent.
Je pense qu'ils s'en foutent.
Ouais,
il faut faire attention à ce petit jeu quand même. Galthié qui agace donc beaucoup de monde avec son discours et ses éléments de langage, même si son directeur de la com n'était pas présent à Édimbourg. Et on a cru justement du fait qu'il n'était pas là qu'on allait avoir assisté à un vrai discours. Mais bon, même pas. Ça a dû.
Le plan de com, il est fait bien avant l'Écosse. Hein.
Mais en inside, justement, on se posait la question tout à l'heure. Il est toujours très apprécié de ses joueurs. C'est le cas notamment de Gaël Ficou, venu nous parler de la confiance qu'il porte à son patron.
Fabien, il a montré qu'il lâchait pas l'équipe et qu'il croyait en nous. Toute la semaine, au lieu de nous tirer dessus, il nous a sublimés, il nous a encouragés, il nous a pas lâchés. Et je pense que ça montre aussi son état d'esprit. Malgré la difficulté, la pression de la presse, la pression de tout le monde, il lâche pas ses joueurs parce qu'il croit en nous. Et je pense que moi le premier, hein, la semaine dernière, on n'a pas fait une belle performance. Moi le premier, et il m'a pas lâché. Il aurait pu mettre un autre joueur avec énormément de talent, il l'a pas fait. Donc ça montre aussi sa confiance et ça, c'est important dans un groupe. Aujourd'hui, Fabien, il fait confiance à des gars, il s'appuie sur des personnes avec des caractères forts et lui a un énorme caractère parce que c'est jamais facile et je pense que voilà l'équipe a entièrement confiance en lui et on est à fond derrière lui et il est à fond derrière nous donc je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver dans les semaines qui arrivent et dans les mois futurs aussi.
Voilà, belle déclaration d'amour.
Oui, mais c'est Gaël, donc il est leader et puis il a 80 sélections.
C'est, et puis c'est
normal
qu'il
réagisse comme ça, mais en même temps, Fabien, tu ne peux pas lui reprocher son infidélité. Hein. C'est quelqu'un qui est fidèle. Donc quand même, je pense que le vestiaire, il l'a encore avec lui.
Il le tient encore, oui.
Je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Hein.
Ce qui n'était plus le cas, comme tu le disais tout à l'heure, Julien à Montpellier fut un temps, ou même à Toulon, où au bout d'un moment, les joueurs avaient lâché leur sélectionneur, qui parfois peut être très dur avec ses joueurs. Hein.
Non, mais après, c'est toujours pareil à Montpellier. C'est pas tant les leaders qui l'a fâché à Montpellier. Les Fulgence Ouédraogo à l'époque n'étaient pas forcément fâchés avec Fabien Galthié. C'est les joueurs des fois qu'il peut parfois laisser sur le côté. Mmh. Alors j'en reviens toujours. Je dis pas que là il est fâché, mais le petit Emilien Gaëtan, le petit Nicolas Deporter à qui on promet un bel avenir, qui sont renvoyés en club chaque semaine et qui n'ont pas la chance d'être parmi les 24, 25, 26. Alors je dis pas que vont être frustrés, mais au bout d'un moment aussi attention à la gestion de ton effectif, ton groupe. Mmh. De maintenir la confiance à Gaël Ficou et Jonathan Lanty, c'est très bien. Mais c'est très bien aujourd'hui parce que l'équipe de France a gagné. J'en reviens à ce qu'on a dit au départ. Si Nick Berry pose une autre question et qu'aujourd'hui l'équipe de France a perdu le match, on dit quoi de Fabien Galthié en disant t'as maintenu ta confiance à Gaël Ficou qui sont en difficulté. Pourquoi ne pas apporter
après,
un
Gaël
peu Ficou, plus de sang
il a largement relevé la tête.
Il fait
en
partie
en
des bons matchs.
Ouais,
mais
je veux
dire, après, on aurait pu lui reprocher aussi de ne pas incorporer parfois un peu de sang frais. Alors là, il est récompensé dans ses idées d'avoir fait confiance à tous les joueurs, ouais. Mais attention de ne pas non plus se couper d'une grande partie du squad de l'équipe de France.
Après, ce qui est intéressant, et moi je me pose vraiment la question, c'est est-ce qu'on peut trouver une alternative entre un Fabien Galthié qui, quelque part, a raison de protéger ses joueurs derrière ce discours lisse. C'est aussi une manière pour lui de dire je fais confiance, et donc il donne confiance à son vestiaire, et c'est important. Et de l'autre côté, mais avec un manque de franchise qui vire encore une fois à l'irrespect, ou alors un Marc Lièvremont de 2011 qui, lui, n'a pas eu peur de tacler devant la presse au point de se mettre à dos son vestiaire certains de ses joueurs cadres en les traitant de sales gosses. Enfin voilà, on se souvient du récit épique de Marc Lièvremont. Est-ce qu'on peut trouver une alternative, un juste équilibre entre ces deux types de discours ? Parce que franchement, ça devient lassant de buter face à un mur de Fabien Galthié qui ne nous dit jamais rien ou toujours la même chose. Ça dépend comment, par quel bout
on prend. Il y a un juste milieu, mais sauf qu'on est dans les extrêmes. Là, tu sais, deux entraîneurs qui sont dans les extrêmes, que ce soit Fabien d'un côté ou Marc Lébrondo.
Marc Lébrondo à son époque.
Je crois qu'il y a un juste milieu, mais bon.
C'est difficile de comprendre en tout cas.
Après, je pense qu'on va rentrer dans une analyse technique. Fabien, il est quand même, c'est pour moi un des plus grands techniciens, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est peut-être là où il faut quand même aborder les sujets intéressants, parce que c'est au-delà de sa personnalité qu'on connaît, il y a quand même une faillite, pas collective du point de vue défensif, mais une faillite dans le jeu.
Ouais.
Maintenant, moi, mon interrogation, c'est savoir dans quel jeu il veut aller.
Alors, voilà, justement, on va s'intéresser à l'aspect technique de cette rencontre. Je pense qu'il n'a pas le droit de parler de contenu parfait. On va voir avec toi, justement, Winnie, ce qui a pêché chez les Bleus dans ce match. Et la liste est plutôt longue. Hein.
Si on prend deux grands domaines, il y a d'un côté les ballons aériens et de l'autre côté l'attaque, le système offensif. Les ballons aériens, déjà, on commence par la touche. Comme face à l'Irlande, on a subi en touche, deux touches perdues, mais aussi même des touches gagné ou même des touches volées aux Écossais, mais derrière qui sont certes bien captées dans les airs, mais mal transmises, et du coup on rend directement le ballon aux Écossais. Donc déjà, on peut pas avoir une conquête, on peut pas être conquérant si on n'est pas bon en touche. Au-delà de la touche, il y a aussi la réception des ballons hauts. Deux exemples. 18e minute de jeu, Ramos qui réceptionne un ballon de Finn Russell qui est à l'autre côté du terrain, qui fait une longue touche en diagonale, et en fait Ramos saute, relâche le ballon dans son saut et la laisse tomber en touche. Dans notre camp, c'est-à-dire, je ne sais plus, on doit être quasiment à l'entrée des 22 mètres.
Sur la ligne des 30 mètres.
48e minute, pareil. Mathieu Jalibert en seconde mi-temps qui, devant les 22 mètres français, réceptionne un coup de pied long des Écossais sans pression apparente et qui la relâche assez grossièrement, il faut dire. Ce n'est pas le seul en avant de l'ouvreur tricolore d'ailleurs pendant ce match et qui, du coup, à nouveau nous met sous pression parce que permet donc aux Écossais de venir occuper notre camp. Donc déjà, on a évidemment ce problème des ballons aériens. C'est pas la première fois qu'on le pointe. Le quart de finale face à l'Afrique du Sud, le premier match du tournoi 2024 face à l'Irlande et rebelote en Écosse. Malgré la victoire, on a pêché sur ces ballons-là. Deuxième domaine criant, c'est l'attaque. Est-ce qu'on peut parler d'attaque ou justement d'attaque inexistante d'un système offensif, en tout cas, qu'on ne comprend pas. qu'on ne comprend pas. Je arrête effectivement pas de cellule derrière les rucks pour essayer de construire quelque chose avec plus qu'un joueur. Pas de soutien du porteur de balle, même quand certains joueurs vont percer. On a vu Ramos, on a vu Jalibert, on a vu Ficou percer dans le camp écossais, mais derrière, il n'y avait personne. Du coup, bah, on se met la rate au courbouillon parce qu'un joueur tout seul au sol, il ne peut pas garder indéfiniment le ballon. Du coup, les rucks ne sont pas propres. Du coup, les sorties de rucks par Maxime Lucu ou d'autres sont mal transmises. Et donc, on arrive à rien construire. À la fin, bah, on en arrive à une passe, allez, maximum deux avant d'aller péter dans la défense écossaise. Il n'y a rien, il n'y a aucune combinaison, on n'a rien vu de concret pour nous dire voilà où veulent aller les Bleus, où veut aller Patrick Arletaz, le nouvel adjoint de Fabien Galthié en charge de l'attaque, qui a succédé à Laurent Labitte. On ne comprend pas. Et puis, autre chose, bah, c'est le jeu de pied d'occupation des Bleus, avec évidemment Ramos et Jalibert qui l'ont incarné,
ça, c'est
face à un Ben White et un Finn Russell qui ont très bien joué le coup aussi en face. Allez, ça c'est la dépossession effectivement. Maintenant, quand tu as plus de 40 coups de pied dans un match, tu vois à quel point, en fait, à la fois, on a un Patrick Arletaz, on le sait, qui aime l'attaque, qui aime aller jouer à la main, relancer à la main,
et en même temps
un jeu qui est encore entre cette possession, cette dépossession, et donc on n'y comprend plus rien. Et donc
j'ai une explication par rapport à ce non-jeu. Je crois qu'il y a une fragilité aujourd'hui au niveau de cette équipe de France qui fait que on prend le moins de risques. C'est criant quand tu vois les dégagements, que les Écossais sont à 30 mètres et que tu sais pas de contre-attaquer. Alors avec les penaux, les Bielbiarés qui sont très rapides, essayer de tenter des choses. Non, on tente plus, mais je crois que c'est à l'image de cette équipe de France qui est souffrante, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance. Alors ils se sont resserrés en défense. Ouais. Ça leur a permis d'accrocher cette victoire. Mais après, c'est vrai que c'est le néant dans le jeu. Il faut reconnaître que, alors il pleuvait, j'entends dire des gens qui
mais la savonnette,
on nous a parlé bon,
la savonnette, sauf que les Écossais ils ont joué dans le timing avec une vitesse d'exécution assez incroyable.
Bah, le premier essai de Ben White,
mais sans tomber les ballons,
ça, ils ont fait des passes quoi.
J'ai pas vu beaucoup d'Écossais tomber des ballons. Hein. On m'a dit le ballon est glissant, oui, mais les Écossais, non, mais il y a quand même une équipe de France qui aujourd'hui reste fragile tout simplement.
Okay, 84 donc coups de pied dans la rencontre, messieurs.
84 coups de pied par minute.
Le temps de jeu, je crois que c'est
un coup de pied par minute.
C'est parti de ping-pong rugby en fin de match.
Le
temps n'était pas fait.
Le temps de jeu effectif, je crois que c'est 39 minutes.
Pardon.
Ouais, mais alors, il y a eu 10 minutes à un moment de ping-pong.
C'est pas beaucoup le temps de jeu.
La 60e et la 70e, juste avant l'essai de Louis Bielbiaré, là, on s'est tapé le ballon 33 fois entre Français et Écossais, avec finalement plus personne qui chassait. Les joueurs restaient en place après ce coup de pied de Ramos face à Finn Russell. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on sait pas où on va. On a cette volonté de Thomas Ramos qui te dit, on a envie de plus jouer. Pendant cette Coupe du Monde, il y avait cette volonté de quitter un peu ce jeu de dépossession qui avait fait évidemment la force de l'équipe de France. Avec cette volonté, évidemment, avec les règles érigées par le World Rugby, de peut-être un peu plus posséder le ballon, ce qu'on a tenté de faire contre l'Irlande. Et là, j'ai l'impression qu'une semaine après, Denis, alors évidemment, tu le dis, on n'a plus confiance dans notre jeu, mais là, on a fait quand même machine arrière. On est revenu au tout début du mandat de Fabien Galthié, il y a 4 ans, quand sur les premiers matchs de Fabien Galthié, il n'y avait aucun risque qui était pris. Tous les ballons qui étaient joués dans la moitié de terrain des Français, on l'occupait au pied. Alors évidemment, il y a des ballons à jouer contre l'Irlande. Je pense qu'il y a des ballons qu'on a joués qu'on n'aurait jamais dû jouer et qui étaient contraires à l'esprit de Fabien Galthié. Et là, je pense qu'il y avait des ballons qui étaient largement jouables et qu'on n'a pas fait. On est revenu quasiment au premier match de l'ère Galthié, c'est-à-dire qu'on est en train de tout reconstruire à zéro et que cette équipe de France, elle a perdu toute confiance dans les jeux de relance qu'elle pouvait avoir.
Je suis obligé de revenir là-dessus parce que personne n'en parle, mais l'importance d'Antoine Dupont dans cette équipe depuis 4 ans, l'influence qu'il avait, mais après je sais pas, on devra en parler plus tard, je l'ai lu pour une fois. Mais Antoine Dupont c'était évoqué sommairement. Non mais je veux dire par là, c'est que en fait t'as pas de joueurs qui te remettent dans le sens de la marche, en fait. Antoine Dupont, pendant 4 ans tu joues ce jeu de dépossession, mais il y a toujours un fil conducteur, et en fait ce fil conducteur, t'as l'impression que c'est Antoine Dupont qui remettait de l'impulsion, qui remettait toujours dans le sens de la marche, qui était toujours très fort au pied. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu orphelin. Alors, il ne faut pas exagérer parce que ce n'est pas un homme qui transfigure une équipe, mais quand même, j'ai l'impression que quand on faisait ce jeu de dépossession, qui était ce jeu-là samedi, il ne faut pas se tromper, mais on ne trouve pas de liant. Il n'y a pas de liant, en fait.
Il y avait sur la pelouse, dans le groupe samedi, 13 des 23 vainqueurs de l'Angleterre à Twickenham l'année dernière.
ça fait quand même une grosse part, quand même, un gros pourcentage de l'équipe qui avait atomisé l'Angleterre. Ce groupe qui avait été chercher le Grand Chelem il y a deux ans. Moi, l'autre soir, pendant le match, je me disais, mais où est donc passée l'équipe de France ? C'est pas les mêmes qu'on a là. Les joueurs de l'équipe de France qui sont sur le terrain. J'avais cette impression-là.
Bah,
mais
si
où est donc passée l'équipe de France ?
C'est
un peu comme la 7e compagnie, l'équipe de France. Elle a disparu.
Non, mais là, le Grand Chelem 2022, oui, bah, c'est facile de te répondre, puisque sur la pelouse, au coup d'envoi, t'avais Paul Willemse, il est suspendu après son carton rouge face à l'Irlande, au moins 4 matchs, peut-être 3 s'il fait la semaine.
C'est 3.
Ah bah tu vois, j'avais même pas suivi. Merci Julien.
Ouais,
Jelon, blessé. Dupont avec le 7. Ntamack, merci.
Jelon, il était pas là.
T'as pas travaillé.
Là, tu parles de 2022, du Grand Chelem.
Non, je te parlais de l'équipe qui a atomisé l'Angleterre.
Parce qu'on a parlé du Grand Chelem 2022.
Il y a plus longtemps, là, c'est l'Angleterre. Il y a un an.
Moi, je pense que la différence. La différence, c'est la fraîcheur mentale. Je trouve qu'Antonio, Movaca, c'est pas possible que c'est des joueurs qui sont devenus, des simples soldats. Alors que c'était des meneurs. Antonio, il a été transparent. Movaca.
Mais Antonio, il a 2 ans de plus qu'en 2022. Oui, et le ping-pong rugby, Antonio à 140 kilos, courir 84 fois après le ballon qui lui passe au-dessus de la tête.
Et Antonio,
au bout d'un moment, il en a marre, Antonio.
Et Antonio, il voulait arrêter sa carrière. N'oubliez pas.
Il l'a récupéré.
Non, mais Movaca, regarde les joueurs. Il manque la fraîcheur mentale. Il manque un ressort.
Movaca, il a voulu à tout prix reprendre le rugby directement après la Coupe du Monde. Je crois qu'il a même pas coupé une semaine. Il est reparti et je pense que là, il est un peu en manque de jus. Donc, il faudrait faire comme on a fait pour Aldrit, c'est-à-dire lui permettre de souffler, de se reposer et de
ce
le
rendre. Ce qui a été évoqué par Fabien Galthié.
Mais oui, mais il a été évoqué, mais ça n'a pas été fait pour l'instant.
On prend l'exemple.
Alors que Julien Marchand, lui, a bénéficié
d'une régénération. C'est pas pareil.
D'un autre côté, je trouve que quand il est entré en jeu,
il a été bon.
Pourquoi ne pas remettre Marchand en titulaire ? Mais Movaca, tu le fais entrer dans les 20 dernières minutes.
Mais c'est pas le même exemple. Marchand, il n'a pas d'usure mentale. Marchand, il n'a pas joué.
Parce qu'il n'a pas joué.
Mais par exemple, tu prends l'exemple de Danti, par exemple. Lui, je pense que c'est vraiment un problème mental. C'est pas que physique, c'est pas possible. C'est un mec qui, j'ai l'impression qu'il a plus de ressort. C'est-à-dire que le Danti qu'on connaissait, même le Danti l'an passé, il perforait toutes les défenses, il avait un gaz terrible. Là, je crois qu'il faut qu'il se régénère. C'est le genre de joueur qu'il faut qu'il se régénère, il me semble. Mais après, bon, c'est facile de parler, mais j'ai l'impression qu'il manque de
va-t-on aller vers la régénération et l'introduction de 109 dans cette équipe ? On en parlera tout à l'heure. Alors, on a vu tous les côtés négatifs de ce match. Ils sont donc assez nombreux. Julien, on va voir que certaines autres choses ont fonctionné. Je pense notamment à la défense, pour une fois. Bah oui, la défense de l'équipe de France qui n'a concédé qu'un essai. C'est un miracle par rapport aux dernières sorties.
Beaucoup moins que la moyenne.
5 face à l'Irlande, 4 face à l'Afrique du Sud, avec une bataille de tranchées digne de Verdun, où les Bleus n'ont rien lâché, Julien.
Oui, effectivement, on a retrouvé ce qui faisait la force de l'équipe de France depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. On se rappelle que c'est l'arrivée de Sean Edwards, une prise de guerre avait annoncé Bernard Laporte à l'époque. Sean Edwards qui avait bâti évidemment le jeu du Pays de Galles, qui avait régné sur l'Europe avant d'arriver en équipe de France. Et c'est vrai que sur les 3 premières années du mandat de Fabien Galthié, la défense était une force incroyable de cette équipe de France, avec notamment ses ballons de récupération et ses attaques en black, avec sur 20 secondes l'équipe de France qui était capable d'aller marquer des essais sur des fulgurances de nos attaquants. Et c'est vrai que, alors on n'a pas encore récupéré les fameux ballons de récupération qui faisaient la force de cette équipe de France, mais oui, effectivement, défensivement, la France a tenu la route à Murrayfield. Heureusement d'ailleurs, sinon le score aurait été plus lourd. Donc ça, c'est évidemment un gros point positif, avec un aspect technique qui a aussi changé, on en parlera, c'est que pendant la Coupe du Monde, avec la présence de Mathieu Jalibert, on avait eu tendance à décaler Mathieu Jalibert en tant que numéro 13, et que les Irlandais avaient cerné ce changement défensif et qu'ils avaient été ciblés la zone de Mathieu Jalibert, qui se retrouvait donc entre des centres et des ailiers. Contre l'Écosse, on a décidé d'arrêter de faire défendre Mathieu Jalibert au centre et il a tenu sa place en tant que demi d'ouverture, soutenu donc par Ficou et par une troisième ligne. Alors évidemment, la troisième ligne défendait différemment, mais stratégiquement, la France avait changé aussi de tactique et Mathieu Jalibert a mieux tenu son rôle en tant que numéro 10. L'autre gros point positif de cette partie, c'est le jeu d'occupation au pied, avec, on a retrouvé une vraie longueur d'occupation dans ce fameux ping-pong rugby, et le retour des cadres, on en a parlé tout à l'heure, qui avait été défaillant effectivement contre l'Irlande. On a retrouvé enfin un Gaël Ficou à son niveau qu'on n'avait pas revu depuis de nombreuses années. On a retrouvé un François Cross déterminant avec près de 18 plaquages, le rôle prépondérant de Charles Olivon à la sortie de Grégory Aldrit. Et c'est vrai que dans ce sens-là, on peut dire que Fabien Galthié, il a maintenu son effectif avec lui, parce que ses leaders lui ont répondu présent. présents et lui ont permis d'aller décrocher cette victoire.
Oui, ce qui prouve qu'il y a une certaine ambiance et qu'ils ont fait l'union sacrée. Donc, tu peux penser quand même que cette équipe de France, elle vit encore, heureusement d'ailleurs. Mais même s'il y a eu, même si le match a été médiocre, donc. C'est quand même la seule satisfaction, c'est la défense. Mais comme le dit très bien Julien, toutes les victoires ont été bâties sur cette défense. Donc, est-ce que ça peut augurer de nouvelles espérances?
Non, mais de toute façon, il y avait le feu au lac au niveau de la défense. Donc, à un moment donné, il fallait quand même se
non, mais on peut
remettre
espérer,
en place
espérer
parce que
grâce
même,
à cette défense.
C'était opération saloon, hein, porte ouverte quand même ces derniers temps. Donc là, c'est bien.
Sur le premier essai des Écossais, c'est porte ouverte aussi.
Oui, là aussi.
Au milieu du terrain, c'est complètement troué.
Ouais.
Mais bien joué aussi par les Écossais.
Quelle magnifique action écossaise. Ouais. Alors, que retiennent les Bleus? Est-ce qu'ils retiennent plus ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a marché? On a posé la question aux deux capitaines du jour, Greg Aldrit et Charles Olivon, et vous allez l'entendre, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Aldrit qui évoque tout d'abord l'essai refusé aux Écossais en toute fin de match.
Je pense que les images, elles sont assez claires dès le début, donc je vois pas comment il peut prendre une autre décision, mais franchement, beaucoup d'émotions. C'est peut-être un peu idiot ce que je vais dire, mais c'est une de mes plus belles victoires avec l'équipe de France ce soir. On a passé une semaine compliquée, mais comme a dit Fabien, voilà, on s'est resserré entre nous et on voulait faire ça pour nous et on l'a fait. Alors, je suis très content pour le groupe.
Encore quelques points d'interrogation, on n'est pas encore libéré, je trouve. Oui, c'est dans la tête, mais c'est pas que mental. Et voilà, il faut qu'on s'approprie peut-être plus les choses, clarifier certains secteurs. Mais on a compensé avec cet état d'esprit ce soir, et je pense que c'est ça qui nous permet d'aller chercher la victoire. Je ressens qu'on est allé la chercher, voilà, que c'est mérité. Même si évidemment il y a discussion sur cette dernière action, mais il peut y avoir discussion sur d'autres moments du match, à se mettre de la ligne quand nous aussi on n'est pas loin de marquer. Donc bien sûr qu'on peut avoir des discussions sur plein de choses, mais en tout cas très fier.
On est très fiers, nous disent Charles Olivon et Grégory Aldrit. Vous avez vu, bon, c'est pas tout à fait la même ligne
venue
par les deux capitaines.
Ils ont fait preuve d'orgueil. C'est ce que j'avais dit, on avait dit un petit peu avant le match, et voilà, et on espérait qu'il y avait beaucoup de, que l'orgueil serait au rendez-vous, et ça a été
le cas. Mais quand Aldrit dit c'est une de mes plus belles victoires,
oui,
mais
parce que tu comprends, il parle de l'état d'esprit.
Oui, je comprends, parce que justement,
il relève la tête.
Je pense que d'abord, ça prouve qu'ils avaient la trouille, hein, tout simplement.
Ah, oui.
La trouille avant, puisqu'ils ont passé une semaine assez dure, apparemment, et qu'ils n'avaient pas de certitude. Donc, je pense que c'est une espèce de libération, voire de délivrance à la fin du match. Donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est une très belle victoire, parce que finalement, c'est un peu miraculeux, mais quand même ils se disent au fond d'eux-mêmes, c'est grâce à nous, c'est grâce à notre solidarité, à notre union sacrée qu'on a gagné.
Ouais.
Donc si tu veux, je comprends un petit peu son discours quand même, parce qu'ils ont du mal de vivre quand même. Toute la semaine, ça a dû être difficile.
Olivier,
on est en train de le découvrir.
Très fier de cette victoire, d'autant qu'elle est presque miraculeuse. Après le coup de sifflet final, les Bleus ont longuement communié avec leurs supporters. À présent en masse, hein, il y a plus de 15 000 spectateurs français, des supporters ravis de la victoire, mais pas vraiment du contenu. En tout cas, c'est ce qu'on a pu ressentir en discutant avec nombre d'entre eux après le match. Les supporters français qui ne l'ont quand même pas ramené après le match, hein, ça a festoyé, mais on ne s'est pas foutu de la gueule des Écossais.
Non.
Les discussions ont beaucoup tourné autour de cet essai écossais dont on vient de parler, non accordé par M. Berry.
Saluons le fair play des supporters écossais
d'ailleurs. C'est exactement
après, on a des commentaires évidemment plutôt enragés, hein, après le match du côté des Écossais et de la presse
écossaise. Saluons le fair play dans le stade. Imaginons la même scène au Stade de France, au Vélodrome.
La marée sifflée, non mais
encadré par les policiers du GIG.
Imaginons la scène.
Il y aurait eu des snipers
et le fair play,
sur
des supporters, mais aussi
c'est culturel, hein.
Mais même des joueurs. Les joueurs, ils ont dit pour nous, il y avait essai, mais
pour moi, il y a essai, mais c'est l'arbitre.
Non, mais ils sont dignes. Ils ont été dignes. Mais de toute façon, les supporters sont dignes. De toute façon, il n'y a que nous en France où on est indignes. Surtout toi.
Non, mais c'est
surtout toi, Christophe.
Ça fait du bien de.
Non, ça fait du bien. Tu as raison.
De voir ce comportement.
C'est vrai que c'est très rugby.
Et puis ça nous rabaisse notre caquet. Je veux dire, le match contre l'Afrique du Sud, la défaite, on l'a toujours pas digéré. On a mis la défaite sur le dos de l'arbitre.
Ben,
pas que les journalistes, mais les joueurs aussi. Et ben là, on voit qu'il y a des gens qui savent perdre avec honneur.
Notamment des commentateurs de l'équipe d'Écosse du 15 du Chardon, qui, parce que je lisais ça là dans la presse étrangère hier, qui disaient mais il faut d'abord s'en vouloir à nous-mêmes, parce que comme face au Pays de Galles la semaine d'avant, les Écossais ne savent pas finir un match.
Ouais,
ils ne savent pas finir un match. De la 70e à la 80e, ils perdent le match. Et ça, c'est le jeu de l'Écosse, c'est leur faiblesse.
Oui, et puis il faut m'expliquer comment à un moment donné ils arrivent à faire du non-jeu. C'est-à-dire pourquoi, de quelle raison ils mènent au score avant de laisser le biel biarré, mais ils ont 10 000 fois l'occasion dans 10 minutes pour remonter les ballons.
De jeu au pied,
ils s'arrêtent de jouer.
prendre les points.
Mais je pense que Phil Russell est très responsable, hein, pour moi.
C'est mais apparemment, c'est quelque chose c'est le capitaine, qui hein. est travaillé par l'équipe, par le staff. Hein. Il y a un choix comme ça d'être dans cette position d'attente statique. Alors, c'est un peu bizarre quand on le voit comme ça sur le terrain. J'ai complètement arrêté avec un
peu de rugby. Pendant le direct, on l'a dit. On a encore la marge pour les gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais pu tuer le match.
Alors, que faire de cette victoire maintenant ? C'est vrai que la victoire a souvent la vertu de guérir certains maux. Depuis le début du tournoi, on évoque souvent une Coupe du Monde non digérée par les Français, par les Bleus. Est-ce que la digestion va enfin pouvoir se faire avec cette victoire ? Est-ce que tu ressors ragaillardi par une victoire de
Oui, mentalement, les joueurs, oui. Oui, les joueurs, oui. Fabien aussi, sûrement, parce que ça, imaginons s'il avait perdu, ça aurait été quand même la soupe à la grimace. Il y aurait eu des changements de joueurs, il y aurait eu plein d'interrogations, il serait fait massacrer dans la presse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je trouve que la presse est plutôt clémente avec lui. Et puis oui, forcément, ça va donner un élan, je suis sûr. Je suis sûr que contre l'Italie, il va y avoir... Je pense qu'il va y avoir...
Julien, t'as l'air sceptique par ton soupir.
Non, mais en fait, je pense qu'on se berce d'illusions depuis un an sur cette équipe de France.
C'est notre interrogation.
Non, mais je trouve que ce match-là confirme que cette équipe de France, depuis un an, excepté Christophe, on a parlé tout à l'heure de ce match en Angleterre où on a atomisé les Anglais la saison dernière, on a tendance à avoir oublié tous les matchs de préparation de cette Coupe du Monde. On a tendance à... Alors évidemment, il y a ce match contre la Nouvelle-Zélande.
Que tu aurais pu perdre.
Le match d'ouverture
qu'on aurait pu perdre avec des Néo-Zélandais.
Des Néo-Zélandais qui n'avaient pas ciblé ce match-là comme nous, on l'avait ciblé. On a oublié le match contre l'Uruguay. Alors oui, il y a la Namibie. Je trouve que depuis un an, moi, cette équipe de France, elle est pas brillante. Elle est loin du niveau qu'il y avait en 2022 sur le Grand Chelem qu'on avait fait. Et je trouve que presque moi j'aurais préféré qu'il perde et qu'il y ait une vraie remise caisse, parce que là j'ai l'impression tu dis Denis que la presse elle est pas méchante, que ça peut créer un nouvel allant, et ben moi j'aurais aimé qu'on perde et qu'il y ait une vraie remise en question sur plein de choses.
Mais je me pose des questions sur
l'intégration de Laurent Saint-Péret et Patrick Arletaz aujourd'hui, parce que les systèmes défaillants de l'équipe de France sont ceux qui sont intégrés par le nouveau membre du staff. Est-ce qu'ils ont été parfaitement intégrés? Est-ce qu'ils ont pris la mesure du niveau international? Je me pose des questions sur Gaël Ficou et Jonathan Danty. Sont-ils vraiment des centres polyvalents et complémentaires? Est-ce qu'il ne faut pas lancer les jeunes champions du monde de moins de 20 ans? Est-ce que notre charnière est vraiment à la hauteur aujourd'hui du niveau international? Mathieu Jalibert a fait certes des beaux matchs sur la Coupe du Monde. Là, je trouve que ça fait deux matchs avec la Maxime Lucu qui ne sont pas à la hauteur. Voilà, j'ai plein de questions aujourd'hui et je trouve que cette défaite-là repousse les questions à 15 jours. Et en plus, dans 15 jours, on va battre les Italiens et qu'après, on va aller en Angleterre. Et peut-être qu'en Angleterre, on va se faire tordre et qu'on va avoir perdu un mois.
En Angleterre, c'est chez nous.
En France. Non, mais voilà. Je trouve que cette victoire-là nous berce un peu d'illusions en se disant on est toujours pas loin, ça va tourner du bon côté.
Moi, il y a une interrogation que je me pose. Je me demande si cette équipe de France, elle n'est pas surcotée depuis un petit moment.
On l'a vu trop
lors du Grand Chelem 2022 et depuis elle est en.
Et puis il y a eu ce match en Angleterre. N'oublions pas. Le match en. Mais voilà, je trouve que depuis un an.
La victoire face à l'Afrique du Sud au Vélodrome pour la tournée 2022. Il y en a eu des grands moments depuis le Grand Chelem 2022. Mais ce sont des fulgurances et on peut pas se satisfaire de fulgurances quand on prétend à être au plus haut niveau international aux côtés de l'Afrique du Sud, de la Nouvelle-Zélande, de l'Irlande, parce que cette consistance là, ces équipes là l'ont. Et le 15 de France n'en est plus capable, en tout cas depuis plus d'un an maintenant. Après, évidemment qu'une victoire comme celle-là, contre vents et marées, sous pression, au pied du mur, elle est hyper rafraîchissante pour le mental du groupe, et évidemment qu'il faut savoir construire là-dessus, mais c'est le défi qui est devant maintenant le groupe tricolore. C'est ce défi-là, comment on construit là-dessus, comment on se remet en cause. S'ils veulent pas le faire devant la presse, devant le grand public, ok, on en pense qu'on veut. Mais par contre, dans le groupe, il va falloir se poser les questions que pose Julien. Et notre charnière, et notre jeu offensif, et les nouveaux enseignements que veulent apporter Patrick Arletaz en attaque, Laurent Saint-Péret en touche. Tout ça, comment on le fait infuser rapidement? Ils viennent d'arriver, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Ils viennent d'arriver, ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Mais il faut que cette équipe de France soit séduisante à nouveau.
Mais oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi renoncer à l'idée qu'avait énoncée Fabien Galtier d'amener 80% de ce groupe-là à la Coupe du Monde 2027?
Non, mais ça, Denis, c'est un vrai problème. C'est parce que tu as mis cette équipe de France, ces joueurs-là, dans un certain confort, parce que depuis 4 ans, ils voulaient tous jouer la Coupe du Monde en France.
Tu as raison, ils voulaient repartir sur un site.
Et là, les joueurs, Charles Olivon, ils dit quoi? Alors, je dis pas que Charles Olivon, il est encore à côté, mais Charles Olivon, il se dit 80%. Bon, mais si je fais une ou deux saisons en Dancy, je sais quand même que je serai en Australie. Il a mis tout le monde dans un sorte de petit confort où il y a plus de surenchère et que là, Gaëtan et Deporter qui tapent à la porte. Non, mais Gaëtan et Deporter qui tapent à la porte. Pourquoi on les lance pas sur ce tournoi-là? On va les lancer quoi? Dans la tournée d'Argentine où on va protéger les joueurs premium et on va lancer
et
les jeunes.
Pas au bout d'un moment,
il faut mettre
et
un peu de pression.
Pourquoi pas face à l'Italie?
Mais parce que l'Italie, c'est cadeau.
Mais il le fera jamais. L'Italie va remettre le même. Hein. Rappelez-vous de l'erreur qu'a commise Philippe Saint-André en 2011 lorsque il récupère l'équipe de France qui est finaliste de la Coupe du Monde. Et il est obligé de garder l'ossature du groupe et de repartir au combat. Alors que les mecs sont vieillissants, alors que les mecs ont plus la hargne, l'envie de continuer. Résultat, eh ben, il s'est mis dans la mouise tout seul avec ce groupe qui est parti complètement à volo. Et j'ai peur que Galtier fasse un peu la même chose en conservant tout ce groupe. Moi, je pense qu'il faut apporter du sang neuf et plus rapidement que prévu. Pourquoi pas face à l'Italie et surtout face à l'Angleterre. J'ai envie de voir le Garek en numéro 9. J'ai
et
envie
de
voir
à l'Italie. Je me pose cette question,
et
mais Gaëtan, pourquoi pas.
Mais est-ce que vous y croyez une seule seconde?
Non.
Est-ce que vous pensez qu'il va le faire?
Même pas face à l'Italie.
Je vous annonce, il met la même équipe qu'il
est. Bah oui, il peut plus là face à l'Italie. Il est prisonnier de cette victoire
en
Écosse.
Bien sûr, mais c'est évident. C'est l'union sacrée. L'union sacrée qui lui donne raison, qui va lui donner raison par rapport à sa composition.
Mais attends, tu prends les Irlandais face aux Italiens hier. T'as des cadres de l'équipe qui étaient sur le banc et même certains qui n'étaient pas dans le groupe.
Ils n'avaient pas besoin de la Croatie.
Non, les Irlandais, pardon. Les Irlandais face à l'Italie, alors que, évidemment, grosse victoire face à la France au Vélodrome. Andy Farrell s'est pas dit « Je suis obligé de les remettre tous mes cadres ». Non, il a préservé des joueurs pour tester d'autres.
Même le sélectionneur sud-africain pendant la Coupe du Monde a enlevé une partie de ses cadres pour les remettre dans d'autres matchs.
Mais c'est pour ça que moi, j'y crois. Je pense qu'en tout cas, peut-être qu'il va s'entêter. Mais en tout cas, moi, je pense que l'Italie, ce serait pas totalement déconnant que de tester de nouveaux titulaires du type Nonal Nogarek à la mêlée. Alors après, ça pose la question. Antoine Gilbert, il était forfait là pour l'Écosse. Si tu veux garder toujours cette charnière du même club, avec les mêmes repères, si tu mets pas Maxime Lucu mais que tu mets Mathieu Jalibert, est-ce qu'il y aura un déséquilibre? Parce que Gilbert est du Racing, mais il était forfait. Est-ce qu'il va revenir? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. Deux porters au centre,
Fabien
Tuilagi en deuxième ligne.
Fabien va te dire, voilà, le banc était très bon. Et on va laisser le même banc, il sera très bon que contre l'Italie.
Bah, Cameron Wauki était sur le banc,
il est premium,
pas changé. Ne pensez pas qu'il va changer d'un iota.
Tous les jeunes seront testés cet été dans la tournée estivale.
Un petit point.
Gaëtan, Gilbert.
Un petit point de l'infirmerie. On a eu très peur évidemment pour Captain Aldrit sorti sur Sivière en cours de match. On a vraiment cru que c'était les croisés qui s'étaient faits. Et ben surprise, une heure plus tard, il est arrivé en conférence de presse aux côtés de son sélectionneur pour nous donner des nouvelles rassurantes.
Ça va très bien, plus de peur que de mal. C'est une plaie juste qui s'est ouverte. Donc le muscle n'est pas touché, c'est juste la peau qui est bien ouverte. Donc quelques points, et maintenant il faut laisser cicatriser.
Voilà, on n'a pas vu exactement comment il s'était fait ouvrir le genou, mais
un crampon
qui a dû traîner par là. On en sait un peu plus sur cette blessure.
Il a été recousu directement au stade. Ouais. C'est au-dessus du genou gauche, visiblement, qu'il a été recousu. On ne sait pas combien de points, mais apparemment, c'était quand même une jolie plaie, bien ouverte. Mais c'est que la peau et le gras, donc pas le muscle qui est touché. Donc il n'y a pas d'autre besoin que d'attendre une cicatrisation. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va cicatriser avant l'Italie, c'est-à-dire dans deux semaines, un petit peu moins même. Oui, c'est
dans
ça.
Dans une semaine, il est de retour à l'entraînement.
Une chose, oui, effectivement.
Mais
même dès dimanche, il sera à Marcoussis.
Si tu bandes la plaie sur la plaie... C'est ça qui m'étonne, même si ce n'est pas cicatrisé.
Ce qu'on nous explique en tout cas au sein du staff de l'équipe de France, c'est que là, le besoin qu'il a, c'est d'attendre la cicatrisation. Il ne peut pas jouer si les fils risquent encore de rompre. Et donc, voilà. Il est, d'ailleurs, c'est peut-être une chose à noter quand même, pas dans la liste des 19 joueurs qui sont protégés. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une semaine comme ça de break pendant le Six Nations et qu'il y a un match du top 14 qui arrive, il y a des joueurs qu'on protège pour être sûr que les clubs ne vont pas les utiliser pendant le championnat.
Il est sûr qu'il ne va pas être utilisé par La Rochelle parce qu'il est blessé.
Il garde un joueur,
il en protège un autre.
Donc il n'est pas dans la liste des protégés parce qu'on sait qu'il est blessé.
C'est fort, non?
Ah, c'est malin.
Non, mais mine de rien, ils ont raison de faire ça.
Donc 19 sur les 23.
Sur les 23, il y en a 19 protégés qui pourront donc pas jouer. Ceux qui sont pas protégés, c'est-à-dire ceux qui ont pourrait voir.
Donc Aldrit, mais qu'on
ne
verra pas.
Non, oui, on ne va pas le voir. Il y a Possolo de Tulagi à l'USAP, il y a Seb Tao Fifenoa au Loup et il y a Alexandre Roumat à Toulouse. Donc ça fait Loup La Rochelle, Stade Français, USAP, Toulouse, Oyonnax samedi. Eux, on pourrait les voir et vu les affiches, je pense que le Loup face à La Rochelle, comme l'USAP qui va jouer au Stade Français, leader actuel du championnat.
Ouais, c'est
on
sûr que
les voir.
Du côté de l'USAP, Julien Tulagi, on essaye de le faire jouer quand même hein, parce qu'il apporte beaucoup dans cette équipe.
Oui, et puis c'est des joueurs dans les petites équipes, ils ont du mal à se passer des internationaux. Bien je sûr. Pense que l'USAP a aussi besoin de récupérer ses Italiens, Tommaso Allan, et qu'évidemment, en plus, Possolo Tulagi, il a quand même pas beaucoup joué avec l'équipe de France et que je pense que lui aussi a envie de jouer ces matchs-là pour avoir du temps de jeu. Surtout qu'on annonce que Meafou sera sûrement trop court pour l'Italie, que Paul Villemc sera encore suspendu et que peut-être Tulagi a aussi envie de se montrer encore une fois à l'équipe de France, même si il fait forte impression, pour peut-être prétendre à une place de titulaire. On parlait des choix que pourrait faire Fabien Galtier de lancer les jeunes. Je pense que Possolo Tulagi, en tant que numéro 5 de cette équipe de France contre l'Italie, n'aurait pas, avec la comparaison de Gabriel, que ça ne changerait pas grand-chose, à mon avis, au sein de l'équipe de France.
Moi, j'y serais. À Stade Français Perpignan, j'y serais.
Tulagi, qui a priori, c'est ce qu'il nous disait en conférence de presse, le sauveur des Bleus, parce que c'est sa main qui a empêché le ballon d'être aplati. Il y avait ma main en dessous. On ne la voit pas à la caméra.
Sauf qu'on ne le saura jamais. Et c'est comme ça. C'est le mystère du rugby.
L'autre jour, et je vais pas aller lui dire le contraire parce qu'il est quand même costaud, le garçon. La semaine prochaine, on évoquera le prochain adversaire des Bleus dans ce tournoi. Ce sera dans deux semaines à Lille, l'Italie.
On tremble
d'affronter les Italiens.
Attention, Julien. Attention.
Et ça, c'est la suffisance française. L'Italie qui a pris une sacrée dérouillée ce week-end en Irlande en s'inclinant 36-0. Pas un seul point inscrit par la Squadra. Défaite qui fait mal, qui montre s'il en était encore besoin au niveau des Verts d'Irlande qui, eux, sont bien partis pour un grand chelem, même pour cela, il leur faudra battre l'Angleterre, qui elle aussi est invaincue. L'Angleterre et l'Irlande, donc les deux invaincus, même si les gars de la Rose n'ont pas montré face au Pays de Galles le même rugby abouti que l'Irlande. Un tournoi loin d'être terminé, qui promet encore plein de rebondissements et de suspense. On va se régaler jusqu'au 16 mars prochain, date du crunch. Merci messieurs, dames.
Salut
merci,
tout le monde.
On se retrouve lundi prochain.
Yes. Ouais,
apportez-vous bien, arrêtez le haggis, arrêtez le whisky.
Oh. Le haggis, c'est toi qu'il faut que tu l'arrêtes.
J'ai bien arrêté, nickel.
Il se frotte le ventre en même temps.
Bon, le haggis, c'est pas très bon.
T'as pas aimé, toi.
Oh, c'est bon, le haggis.
Non. Il aime pas ça. Il a été mangé japonais à Edimbourg.
Franchement, Denis.
Le crétin. Allez, bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain. Ciao.